Donc la première partie, c'est une présentation où vous donnez, merci de rappeler donc votre prénom, votre nom, votre âge, votre profession, un peu votre historique politique. Et je propose qu'on commence de gauche à droite, et à gauche en commençant par Jean-Marc Isquin.
Bonjour, moi je suis Jean-Marc Isquin, j'ai 60 ans, je suis ouvrier de maintenance. Et je suis un ancien de Conti surtout, je travaille à Paris en ce moment dans la maintenance, mais je suis un ancien de Continental avec qui j'ai eu la chance, pas pour eux, mais au moins de pouvoir participer à l'organisation du mouvement. J'en profite pour les saluer d'ailleurs, et j'ai travaillé très longtemps aussi à Continental, et je profite pour les saluer, les travailleurs de Conti et surtout ceux du TI qui ont été obligés de se bagarrer contre une fermeture d'entreprise. Voilà.
Ça suffit comme présentation. D'accord. Et vous vous présentez pour le parti Lutte Ouvrière.
Je suis candidat Lutte Ouvrière, oui.
D'accord. OK, merci. On va demander à Jean-Marc, maintenant Jean-Marc Isquin, de nous préciser quelles seraient les raisons de voter pour Lutte Ouvrière qui n'arrive jamais à faire des scores mirobolants aux élections, même s'il est toujours présent.
D'accord. C'est dur, mais bon. Non, moi, ce que je veux permettre, c'est aux électeurs de Nathalie Arthaud, lors de la dernière élection présidentielle, de prolonger leur geste dans cette élection législative. Il faut faire entendre les idées nécessaires pour les travailleurs dans la perspective des luttes futures. Parce que les luttes, ça ne manquera pas. Le gouvernement Macron, il s'est mis en ordre de marche contre les travailleurs. Eh bien, nous devons faire entendre les exigences des travailleurs. Et pour ça, je défends un programme qui sera bon pour toutes ces luttes à venir et bientôt. Donc, je demande l'exigence de l'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous, sans diminution de salaire pour mettre fin au chômage, cette menace qui pèse sur tous les travailleurs. Il faudra exiger aussi l'augmentation des salaires, leur indexation sur le coût de la vie et des taxes et que pas un seul salaire, pas une pension ne soit inférieur à 1 800 € net. Et je voudrais aussi, dans ce programme, exiger la suppression du secret des affaires afin que les travailleurs et la population puissent mettre en lumière les méfaits des groupes capitalistes. Alors à l'échelle locale, il est important que soit présent un courant du mouvement ouvrier déterminé à défendre jusqu'au bout les intérêts quotidiens des travailleurs, des chômeurs, des retraités, face au patronat, un patronat qui est à l'offensive et aussi avec l'aide du gouvernement Macron. Alors moi, personnellement, je m'affirme communiste, je veux combattre la dictature de la bourgeoisie et je me situe nécessairement dans la perspective de son renversement par la classe ouvrière, consciente et organisée. Ma candidature, d'ailleurs, elle permet de faire entendre le camp des travailleurs. Vous savez, quand vous vous levez le matin et que vous arrivez au boulot, quand vous en avez un, eh bien, vous ne savez jamais comment vous allez revenir le soir. C'est-à-dire qu'il y en a... Alors, je prends le système du boulot intérim. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si le lendemain, on aura du boulot. On ne sait jamais si on ne va pas être en butte à un patron qui va décider l'augmentation des cadences. Dans toutes les entreprises, c'est comme ça. Chez Whirlpool, les gens, ils se bagarrent pour simplement conserver leur emploi. Eh bien, justement, moi, je veux faire entendre toute cette voix-là, la voix de faire entendre le camp des travailleurs et surtout d'exprimer sa fierté d'appartenir à ce camp.
D'accord. Monsieur Isquin voulait intervenir.
Je vais revenir
tout
sur plusieurs
aussi.
Points. Je reviendrai après sur la moralisation de la vie publique, enfin, sur la soi-disante moralisation de la vie publique. Non, je voudrais revenir sur ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire, oui, effectivement, le côté ridicule de l'expression, hein, à part les militaires, bah, tout le monde est du civil. Mais enfin, surtout sur le souffle nouveau que vous avez employé comme terme avec le gouvernement Macron. Alors, le gouvernement Macron, il paraît que il n'est pas contre les ouvriers, mais enfin, c'est les premiers qui va attaquer quand même. Hein, et puisque les premières mesures, c'est une déréglementation du code du travail, c'est quand même bizarre.
Hein, et la loi Macron 1, Macron 2, qui était la loi commune.
Et en plus, avec l'argument de dire qu'il faut un souffle nouveau pour les entreprises, c'est-à-dire réduire les charges sociales, etc. C'est-à-dire des vieilles recettes qui n'ont fait que, alors déjà, ne créer zéro emploi, et puis aussi faire que le chômage augmente, etc. etc. Alors si c'est des vieilles recettes qu'il faut employer pour combattre le chômage, bon, bah, il faut qu'il rentre chez lui. Alors, par rapport à la société dite civile, moi j'ai repris, alors c'est assez marrant d'ailleurs, parce que en fait il s'est gargarisé, hein, Macron, hein, du terme de société civile. Donc, mais c'est surtout pour caractériser les ministres de son gouvernement. Alors, on va parler du premier, hein, puisque c'est le premier, c'est Édouard Philippe. Alors, je rappelle qu'il est ancien porte-parole de Juppé. Il a été élu député, puis, comme de par hasard, il avait refusé de voter la loi sur la transparence de la vie publique. Et puis alors, en même temps, il s'était fait épingler, à l'époque c'était 22 ou 23 députés je crois, parce qu'il avait oublié de déclarer ses revenus. Oh, c'est sûrement un oubli, hein, mais bon, ceci dit, ça commence mal pour un Premier ministre, celui qui est censé commander un gouvernement. Alors évidemment, on a parlé de Bruno Le Maire qui défendait lors de la primaire de la droite, parce que c'était une bagarre, la droite aussi, parce qu'aujourd'hui ils sont divisés parce qu'ils ont perdu, ils ont promis les élections. Enfin, ils sont tous dans le même tonneau. C'est-à-dire qu'en fait, ils défendaient à la primaire de la droite la réduction des allocations chômage, les petits boulots à 5 euros de l'heure, et c'est surtout pour les allocataires de minima sociaux. Alors avec ça, on va être tranquille pour l'économie, hein. Et alors, par contre, il y a Muriel Pénicaud, c'est-à-dire celle qui va appliquer la loi dite Travail 2, hein, je ne sais pas comment on va l'appeler. Alors, elle connaît bien son boulot, hein, puisqu'elle est ancienne directrice des ressources humaines du groupe Danone. Elle a fait ça de 2008 à 2013. Et il a appliqué un plan de 900 suppressions d'emplois, dont 200 en France, hein, rien que ça. Et puis, alors évidemment, elle a remis en question beaucoup de droits sociaux, hein, dans l'entreprise. Et puis, elle était auparavant directrice générale adjointe du groupe Dassault Systèmes, chargée de ressources humaines. Et puis elle a aussi pointé au conseil d'administration de grands groupes, Orange, Aéroports de Paris, et j'en cite pas d'autres. Sinon, alors, elle s'est choisie un chef de cabinet. Alors lui, c'est la cerise sur le gâteau. Il s'appelle Antoine Fouché. Alors lui, par contre, au niveau du curriculum vitae, il est ancien bras droit du MEDEF. Et surtout, il est ancien directeur des relations sociales à Schneider Electric. Alors, il a directeur général de ce qu'on appelle au MEDEF le pôle social. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour eux, mais enfin bon, toujours est-il qu'il faisait partie de ce truc-là. Et donc, à ce titre-là, il est bras droit de Pierre Gattaz, toujours. Et il a surtout œuvré sur les dossiers de compte de pénibilité et de l'assurance chômage. C'est-à-dire, la compte de pénibilité, vous savez, c'est celui qu'on ne peut absolument pas employer quand on est ouvrier, quand on a travaillé 40 ans et qu'on ne peut absolument pas utiliser parce que de toute façon, c'est inutilisable et que de toute façon, les patrons, les premiers, ont gueulé contre ce compte en disant mais c'est inapplicable, on ne peut pas le faire, etc. Et que le gouvernement Hollande s'est couché par rapport à ça.
Et
d'ailleurs, celui qui s'est couché, c'est un dénommé Macron. Alors. Bon, je peux faire tout le gouvernement comme ça. Bon, enfin, en tout cas, moi, je connais bien, il y a Richard Ferrand. Alors, on discute, hein, mais je rappelle quand même que Richard Ferrand, au-delà du pseudo-affaire qu'il a dans les bottes, c'est quand même l'ancien rapporteur de la loi Macron, qui a favorisé le développement du travail du dimanche et surtout la déréglementation en matière de droit du travail. Alors, il y a un dénommé Flanquer, Jean-Michel Flanquer, qui est ancien directeur d'une grande école de commerce privée. Oui. Il était adjoint de Châtel sous Sarkozy et il a participé à la suppression de 80 000 emplois. Et c'est puis alors Elisabeth Borne, qui est ancienne patronne de la RATP, qui a fait l'essuie-glace entre le privé. Elisabeth Borne, on peut en parler, hein, parce que les ouvriers de la RATP, ils peuvent en parler. Elle a supprimé des postes, elle ne remplace pas un poste sur deux qui est viré. Elle a utilisé aussi les arrêts maladie. Alors là, systématiquement, à la RATP, quand un agent s'arrête, le lendemain, il est contrôlé chez lui. Et puis, elle a surtout développé aussi, alors en quelques temps, puisqu'elle est restée que 2 ans, hein, elle a développé aussi ce qu'on appelle la révocation. C'est-à-dire qu'on n'est pas licencié à la RATP, on est révoqué. Ce qui, au fond, revient au même. Et je rappellerai que les agents RATP n'ont pas le droit au chômage.
Alors, d'accord, donc on a compris.
Justement, dans la loi Macron, le chômage
est de la vie publique. Bon, moi j'ai toujours été, et d'ailleurs je le revendique toujours, j'ai toujours été pour la révocation à tout moment des élus, hein, de toute façon, qu'ils soient.
Ah bah la révocation comme.
La révocation Borne. À tous les moments des élus.
Comme Mme Borne à la RATP.
Par le peuple.
Mme Borne n'a jamais été élue, hein, par personne.
Non, mais révocation, bon. C'est le même.
Toujours est-il que moi je suis pour la révocation à tout moment des élus, et puis surtout que la population elle contrôle les élus dans leurs fonctions comme dans leurs comptes. Et puis, de toute façon, il y a aussi le fait que chaque élu, effectivement, devrait avoir qu'un seul salaire, un salaire moyen, qui soit à peu près à hauteur de n'importe quel travailleur et rien d'autre, surtout. Mais le vrai problème de toutes ces discussions, c'est que c'est du cinéma, c'est de l'esbrouf. D'ailleurs, c'est à chaque fois qu'il y a un politicien qui se fait piquer dans une affaire, il faut que ses collègues y pondent une loi, mais ça n'évite jamais les combines et les magouilles dans le petit monde des politiciens. Et puis, ce qui est le plus important, c'est que tout ça, c'est de l'esbrouf, parce que pendant ce temps-là, Macron et Philippe, ils mettent le gouvernement en ordre de bataille pour attaquer les travailleurs.
D'accord.
Et c'est à Beyrouth qu'on a confié le soin de l'esbrouf. Mais en tout cas, je termine juste sur 2 phrases. Oui. Beyrouth, il n'a rien à dire sur l'inhumanité de ces grands patrons qui suppriment des emplois, qui ferment des usines et qui réduisent les populations entières à la misère. Et ça, dans le monde des Macron, des Philippe et des Beyrouth, et ben ça, c'est moral et c'est vertueux.
La dernière question, je suis désolé, on n'a pas pu aborder tous les sujets, ce serait quelle attitude observer au deuxième tour si jamais un candidat de votre parti, donc je ne parle pas de vous parce que forcément vous allez tous être au deuxième tour, donc la question ne se pose pas, mais pour d'autres candidats, LR, LO, France Insoumise, quelle attitude avoir au deuxième tour si jamais ce candidat de ce parti arrive en position inéligible et si au deuxième tour il reste un Front National et un communiste, un Lutte ouvrière, un France insoumise, un républicain, un macronien. Est-ce qu'il faut faire un Front républicain? Est-ce que vous appellerez à voter contre le Front national? Qui veut commencer?
Je pense que la
position de M. Husquin est connue, donc elle peut être répétée.
Elle est connue, alors je vais
elle
la répéter.
Elle peut être répétée utilement.
Non, moi ce que je voudrais retenir, c'est que, vous me demandez de m'exprimer.
Non, on parle sur le deuxième tour, là.
Non, mais juste, laisse-moi finir, parce que vous ne savez pas ce que je vais dire, sinon. Le problème, c'est que vous me demandez aujourd'hui, maintenant, de m'exprimer sur le deuxième tour, parce que le premier n'a pas eu lieu. Donc là-dessus, c'est un problème. L'attitude du deuxième tour, vous verrez bien. Le problème d'un front républicain, puisque c'est ça de vous parler, c'est bien la question que vous avez posée.
Vous
savez que le front républicain, contre le front national, ça ne résoudra rien. Les idées du front national, c'est un poison pour l'ensemble des travailleurs. Et on ferait bien de se poser plutôt la question de savoir pourquoi il y a des travailleurs qui votent pour le front national. Vous comprenez? Parce que on peut toujours dire, on peut regretter que les travailleurs, moi je suis le premier à regretter que les travailleurs votent pour le Front National aussi. Mais s'ils le font, c'est aussi par écœurement des gens qui étaient censés les représenter au gouvernement et au précédent gouvernement qu'ils ont représenté, c'est-à-dire la gauche, le Parti Socialiste et même y compris en grande partie le Parti Communiste qui a dévoyé ses idées. Alors vous comprenez bien qu'aujourd'hui on a affaire à des travailleurs et surtout à des travailleurs pauvres qui se tirent une balle dans le pied et qui votent même y compris contre leur pire ennemi en votant pour le Front National. Mais en tout cas, c'est pas en faisant un pseudo, parce que le Front républicain, vous comprenez...
Je note quand même que pour vous, le pire ennemi, c'est le Front national.
Non, le pire ennemi des travailleurs, c'est le Front national, effectivement.
Oui, c'est ça, je le note.
Mais de toute façon, je parle des travailleurs qui voteraient pour le Front national, qui voteraient pour leur pire ennemi. Il n'y a pas qu'en France que ça existe, l'extrême droite et le monde partout. Et c'est partout les travailleurs les plus pauvres, c'est ceux qui subissent le chômage, qui subissent les licenciements, qui partout sont un peu désorientés et se dressent un peu contre le premier qui est venu. D'ailleurs, l'une des excuses pendant la campagne électorale, c'est de dire on les a pas essayés. Bon, tant mieux qu'on les ait pas essayés, qu'on les essaye jamais. Mais en tout cas, ce qui est je reviens sur les idées dévoyées par la gauche et que c'est bien.
J'ai compris. Merci. Vous avez répondu de façon très claire. Je vous remercie.
Non, j'ai pas fini de répondre.
Mais j'ai pas fini de répondre.
Si. Le problème de faire reculer le Front National, on peut le faire reculer au deuxième tour, comme vous dites. Mais en tout cas, le faire reculer réellement dans la vie politique, il y a que les travailleurs en lutte qui pourront le faire. Vous comprenez bien, cette élection législative, de toute façon, elle sortira pas, elle va pas changer le sort de l'ensemble des travailleurs. Elle améliorera pas le chômage, elle changera rien, et si ce n'est en pire. Donc les travailleurs, ils n'ont que leur lutte à compter dans le prochain. D'ailleurs, il faut qu'ils se mobilisent très vite, puisque de toute façon, c'est les premiers attaqués. C'est les premiers attaqués par Macron. Donc, je pense que ce qu'il faut préparer, l'urgence à préparer aujourd'hui, c'est pas de discuter sur un front républicain. Non, il faut que les travailleurs se préparent à lutter parce que c'est dans les luttes qu'on pourra.